Chers amis, bienvenue à l'écoute d'un nouveau passage de la vie de Saint François. Frère Genièvre amenait un âne. Venez, petit père, nous allons voir Mère Claire. Vous êtes en retard. Et vos yeux, montrez-moi. Oui, ils guérissent. Elle les guérira tout à fait. Sa sainteté me guérit plus que ses soins. Il tendit les mains. Genièvre, ce fort gaillard, le souleva comme un enfant et le plaça sur l'âne. Ils sortirent du bois et bientôt ils furent blancs de neige. Genièvre vit le chagrin de François. Il en connaissait la raison. Tous la connaissaient et souffraient avec lui. Genièvre n'osa dire un mot, par respect pour ce chagrin. François s'en aperçut. « Chante une chanson, frère Genièvre. »« Je ne sais pas chanter, père, vous le savez. »« Je ne suis plus un père, un frère comme toi. » Genièvre se mit à pleurer. Ce grand diable d'homme pleurait. Et dans la révolte de son cœur, il eût voulu crier « Je m'obstinerai malgré tout à vous appeler père. » Mais il savait que c'eût été insulter François et il se contint. « Chante, frère Genièvre. »« Oui, père, frère. » Et les larmes encore aux yeux, il chanta fort et faux. « Cieux, cieux, répandez votre rosée. » Il chanta tout le long du chemin silencieux, toujours avec un sanglot dans la gorge. Et François chantait avec lui. « Chantez quand même, malgré tout. » Lorsque fleurirent les premières violettes, François, à dos d'âne, en compagnie de quelques frères qui allaient à pied, s'en fut à Rome pour y soumettre au cardinal l'ébauche de la règle nouvelle. Pierre eût aimé accompagner, mais il avait pris un gros rhume et frissonné comme un roseau, même au soleil. Quelle différence entre ce voyage et celui où ils portèrent à Rome leur première règle. Jadis, chantant, libre comme des conquérants, âme fraîche avec le souffle d'une vie nouvelle. Maintenant, du plomb dans les pieds, du plomb sur le cœur. Mais le peuple, partout, court au-devant d'eux avec des cierges et des fanfares. Des places publiques comblent s'agenouillent devant celui qui est allé chez le sultan des Maures. L'homme qui ne peut être tué. Un héros, ce petit homme chétif, un avorton aux yeux purulents. Écrivez une règle pour nous aussi, tel fut le cri des laïcs. Chacun voulait partager sa vie en quelque manière. Beaucoup avaient commencé déjà fondant des confréries de pauvreté. Des riches avaient distribué leur fortune et gagné leur pain en exerçant un métier. Des bourgeois visitaient les lépreux. Des épiciers fermaient boutique pour se retirer dans une grotte. Des époux s'entendaient pour vivre séparés. Et les pauvres commençaient à aimer leur misère. Depuis que le monde existe, on n'avait pas vu chose pareille. Le printemps de l'âme. J'en parlerai à Monseigneur, dit François. Il est plus instruit que moi. Il ne voulait plus prendre aucune décision. Il n'en avait plus ni la force ni le courage. C'était une amère soumission de sa volonté aux autres. On ne m'écoute plus quand même, songeait-il. La modification de la règle lui avait coûté trop de sang. Il était épuisé, vide. Il ne lui restait plus que Dieu. quand le cardinal eut lu la règle, « Belle à apprendre par cœur, dit-il, admiratif et déçu. » Ça et là, il fit une rature. « Soumettez-la au chapitre. » « Comme vous voulez, éminence, dit François, docile comme un serviteur qui aurait fait une commission qui ne le regardait pas. » On en vint de part et d'autre à parler des laïcs qui demandaient aussi une règle. « J'ai déjà rédigé quelque chose de ce genre, frère, pour vous épargner le travail, dit le cardinal. » D'une cassette d'argent, il retira un parchemin. « Voici la partie pratique, les paroles pour lesquelles vous écrirez la musique. » Et il a écrit la musique. Toute son âme y chantait. Au début, il n'était pas en train, il agissait mécaniquement. Mais à mesure qu'il voyait mieux dans son imagination ces milliers d'hommes, sa joie s'amplifiait. Cette règle aride et bourgeoise, il l'inondait, transportait. Il l'imprégnait de prières, d'avis, d'invocations si belles, si pures, si bien faites pour vous enflammer d'amour envers la pauvreté évangélique que les prescriptions semblaient superflues. On ne pouvait écouter avec son cœur ses prières sans être incité à bien vivre, à ne plus porter d'armes, même en cas de guerre, contre qui ou pour quelque raison que ce fût. Le cardinal s'en montra satisfait, ce qui rendit François heureux comme un enfant, et jamais il n'avait trouvé tant à son goût les gâteaux aux amandes de frère Jacqueline. La veille de son départ, Monseigneur le fit appeler. « Mauvaise nouvelle, j'apprends par votre messager de Pérouse que le père Pierre ne peut plus guérir. Qui comptez-vous désigner pour son successeur ? Je vous en laisse le soin, éminence. Voilà encore âprement ce refus de rien décider désormais. C'est à vous de décider, dit le cardinal. Bien que vous ne soyez plus le directeur, vous restez le chef spirituel, l'âme, la lumière, le fanal pour le vaisseau des frères mineurs. Il attendit un peu, caressa son menton pointu, fixa François dans ses yeux malades et prononça avec obstination en frappant sur la table. Il nous faut un homme fort, un esprit solide, clairvoyant et calme, un homme à poigne qui puisse dompter les têtus et imposer la paix entre anciens et nouveaux, un homme sans tâche et qui vous aime beaucoup. François ne répondit point. Il regardait le cardinal. Avec ses yeux sanglants bordés de rouge, il était presque effrayant. Et pour la première fois, le cardinal baissa les yeux, tandis qu'il hasardait. « Que pensez-vous d'Élie ? » ?»« Élie est un homme fort, d'une vaste intelligence et qui m'aime beaucoup, éminence, » répondit François, et il se prit à trembler. « Réfléchissez, dit donc, je prierai. » Au retour, François fit lire aux foules, dans les bourgs et les villes, la règle du tiers-ordre et la laissa copier. Les gens pleuraient, s'embrassaient, riches et pauvres, comme des enfants d'une même mère. Et lorsqu'ils voyaient cela, cette fête des enfants de Dieu, ils ne pouvaient s'empêcher de sangloter et de rire et de remercier dans son cœur de cardinal. « Oui, dit-il, c'est un homme intelligent et sage. Je ne suis, moi, qu'un enfant, un petit enfant. J'ai besoin d'un conseiller pareil. Comme tout cela est beau. » « Mon Dieu, oui, peut-être le cardinal a-t-il raison de penser à Élie. »« Élie, Seigneur, aidez-moi. » La figure d'Élie ne quittait plus sa pensée. Ce sourire énigmatique, qui était Élie ? On disait de lui de si étranges choses. François s'empressa de prier. « Seigneur, au secours, mais il en sera ce que vous voudrez, votre volonté. » Et alors, brusquement, il mit la main sur son cœur où il cachait la règle. « Ils feront ce qu'ils voudront, mais ils ne toucheront pas à cela. C'est mon enfant, mon enfant. » Quand François et ses compagnons de voyage arrivèrent à la Portioncule, Pierre venait de mourir le matin même. Les frères sortirent à la rencontre du père en se lamentant. « Notre mère est morte, notre mère est morte. Redevenez notre père. » « Non, dit François péremptoire. Et si vous ne l'êtes pas, qui le sera ? Celui qui sortira le premier de l'église, dit-il. Et assis encore sur son petit âne, il montra du doigt un moine qui sortait de l'église. C'était Élie. Alors François s'affaissa de fatigue et d'autres choses. Devant plus de 3000 frères, César lut l'esquisse de la règle nouvelle. Beaucoup des premiers disciples joignaient les mains dans un élan de joie, mais le mécontentement était sensible chez les autres. Était-ce là la règle nouvelle ? Ce n'était que l'ancienne, recrépie. Hélas ! Et dire que François croyait y avoir mis des concessions qui lui broyaient le cœur. Toutes sortes de questions furent posées, chausse-trappe et guet-apens. Mais François, assis par terre, au pied d'Élie, tranchaient leurs questions par de brèves paroles. « Suivez notre Seigneur. Vivez conformément à ce que vous avez promis. Dieu demande des âmes, non de belles paroles. » Un ministre demanda d'une voix claironnante, « Nous ne pouvons rien emporter, alors que dois-je faire de mes volumes qui valent plus de 50 livres ?» François se fit redresser et d'une voix rauque et indignée, il s'écria. « Mes frères, vous voulez être appelés mineurs et passer pour les héros de l'Évangile. Néanmoins, vous voudriez posséder des coffres-forts. Je ne suis nullement disposé à sacrifier l'Évangile à vos livres. Agissez à votre guise, tous, mais jamais vous ne pourrez, avec ma permission, tendre des embûches aux frères qui veulent me suivre. » Il s'affala de nouveau. Il pleurait des filets de sang. D'autres questions allaient se lever, mais Élie, de ses yeux terribles, ordonna le silence. « Assez, dit-il. Les ministres étudieront encore une fois à fond la règle et ensuite elle doit être soumise à l'approbation du Saint-Siège. » Tous se turent net. Mais un des plus anciens demanda. « Comment devons-nous vivre désormais ? La première règle n'est plus bonne, la nouvelle n'existe pas encore. » Élie répondit avec adresse. Selon l'ancienne et selon les ministres, la semaine prochaine, j'irai moi-même trouver le cardinal protecteur. Passons maintenant à l'examen d'autres questions. Portez-moi à ma cellule, dit François. On l'emporta. Un frère tout jeune vint lui baiser son habit. Qui es-tu, mon enfant ? Demanda François en lui caressant la tête. Je suis frère Antoine. J'ai pris le Saint-Habit après avoir vu les trois frères décapités au Maroc. Tu deviendras une grande lumière dans notre ordre, frère Antoine. Et il le bénit. À partir de ce jour, il se traîna sombre et solitaire dans les bois et la montagne, sans repos, sans consolation. Inquiet, malade, souffrant de l'estomac, du foie, de la rate, des yeux, du cœur surtout. Il voyait dépérir son ordre et dépérissait avec lui. Ah, ses défections! Son ordre, la trahison le disloquait, et l'orgueil et l'hypocrisie. C'est comme si notre Seigneur sont désintéressés. On parlait de beaux couvents qui se dresseraient dans le ciel flanqués d'une belle église. Les religieux, au même propre, avaient des bibliothèques et ils allaient en chaise de poste chez les cardinaux, les prélats, dans les châteaux ou chez le pape. Au lieu de serviteurs, les voici devenus conseillers, s'asseyant à des tables exquises. Des seigneurs. Et ces gens savaient donner de leur conduite une explication si habile qu'ils semblaient avoir absolument raison. D'autres, perdant la tête, s'enfermaient dans des grottes, laissaient pousser leurs chevelures, prêchaient des hérésies. On en voyait d'autres en troupeaux, se lamentant et hurlant l'anathème, passer de ville en ville. Et ceux qui n'avaient déjà pas trop de foi et de ferveur allaient retrouver la popote familiale et épouser quelques belles filles. Le chagrin de François était indescriptible. Mais il ne fit de reproche à personne. Dans sa solitude, il criait « C'est à cause de moi, à cause de mes péchés !» Il s'accusait d'orgueil, d'égoïsme, devenait scrupuleux, avait peur de lui-même. Il flagellait frère Anne jusqu'à s'abattre épuisé. Il priait sans cesse, rampait sur le sol comme un serpent blessé et pleurait tout haut. Les doutes l'envahirent et l'incertitude. Avait-il bien le droit, lui, infâme pécheur, qui s'aimait plus que son Dieu, de fonder un si bel ordre évangélique? Parfois la lumière l'emplissait de nouveau. Il baisait la rosée d'une feuille, prêchait devant une poignée de campagnards, chantait des chansons pour les enfants. Mais il s'éteignait bientôt et se retrouvait dans les ténèbres. Il lui arrivait alors sur le sommet d'une montagne de crier les bras au ciel « Venez me prendre, Seigneur, venez me prendre !» Il cherchait la consolation auprès de ses évangiles vivants, auprès de Claire et dans les petits ermitages où vivaient Genièvre, Masséo, Ange, Bernard et d'autres. Mais de consolation, il n'en trouvait point. Eux, ils étaient purs comme des aurores. En lui, tout était bouleversé, saccagé, avec des restes d'anciens péchés. Leurs yeux clairs l'effrayaient et leurs plaintes le torturaient. « Pourquoi vous êtes-vous laissé prendre le pouvoir des mains ?» dit Masséo. « Reprenez-le, criait Genièvre, vous le pouvez. Chassez les mauvais ministres, je vous aiderai, voici mes points. » « Laissez-les faire, dit François, la damnation de quelques-uns est de moins d'importance que le salut de beaucoup. » Ils tentèrent, mais en vain, de ranimer son ancienne ardeur et vivacité en racontant divers cas de décadence et de méchanceté. « Je n'ai pas l'intention de me faire leur bourreau et de les peiner, mais de les corriger par mon exemple. » Prions et souffrons, c'est notre seule arme. » Il lui arrivait cependant d'aventure d'éclater en courroux. « Maudits soient ceux qui, par leurs mauvais exemples, détruisent, Seigneur, ce que vous avez édifié par les mains des frères vertueux. » Mais il retombait presque aussitôt dans son morne abattement. Ce sera bientôt une honte de porter le nom de frère mineur. Dieu veuille qu'il n'en arrive pas tant de nouveau. Et pourtant, il me semble que je ne suis pas frère mineur quand je ne me réjouis pas dans toute cette souffrance et tout cet opprobre. Une troupe de jeunes vint lui demander « Comment pouvons-nous le mieux vivre selon la sainte obéissance ?»« Comme un cadavre, répondit-il, sans volonté ni résistance, entièrement soumis au vouloir d'autrui. » Mais un peu plus tard, un prêtre allemand demanda « Je désire observer la règle dans toute son intégrité. Donnez-moi l'autorisation de me séparer avec d'autres frères de ceux qui ne l'observent pas. » François exulta. « Au nom du Christ et au mien, je vous l'accorde. » On lui reprochait de n'avoir plus de volonté. On le voyait alors se redresser péniblement. Cela faisait peine à voir. « Attendez le prochain chapitre, je montrerai quelle volonté réside encore en moi. » Et il sanglotait. Élie lui-même l'importunait par lettre au sujet des frères coupables. François lui écrivit « Veuillez voir en tout une grâce, même quand les frères et les hommes travaillent contre vous. » un frère vient lui demander de pouvoir étudier la géographie. Supposons que tu connaisses tout. Eh bien, un seul démon sait plus que tous les hommes ensemble. Mais une chose lui est impossible, d'être fidèle à Dieu. Un petit novice le supplia de lui permettre de posséder un bréviaire. Il avait la permission de son ministre, mais il eût tant aimé obtenir celle de François. François prit deux poignées de cendres dans le foyer et les répandit sur la tête du novice. « Voilà ton bréviaire, l'humilité. » Et triste et fâché, il le renvoya. « Fais ce que te permet ton ministre. » Le jeune homme partit, désolé, mais à peine fut-il sorti que François courut après lui dans la neige, l'arrêta, tomba à genoux et gémit. « Pardon, pardon, petit novice, mon frère. Celui qui veut être un vrai frère mineur ne peut rien posséder, rien que ses vêtements. » Ainsi, il était déchiré par des doutes intimes. Il s'éteignait et se ranimait comme une veilleuse, et il errait d'ermitage en ermitage. Cet hiver-là, il arriva dans les environs de Gubbio. Une foule de paysans passaient armés de fléaux et de faux. « On va faucher de la neige ?» plaisanta François. « Non, dirent-ils, c'est rapport au loup. » Et ils lui racontèrent qu'un énorme loup parcourait la contrée, qui allait prendre les moutons dans la bergerie, les chiens dans le chenil et s'attaquait même aux chevaux. Personne n'ose plus sortir. Il pénètre jusque dans les rues de Gubbio. La peur empêche les gens de dormir. Je voudrais causer un peu avec ce loup, dit François. Du coup, les paysans pensèrent avoir affaire à un fou. Un d'entre eux vint le considérer de près. Et maintenant, on chuchota. Mais c'est le saint mendiant d'Assise. Enthousiasme, agenouillement. Tout de suite, quelques-uns coururent à Gubbio pour dire que le petit frère François allait les délivrer du loup. Tout le bourg se vida pour le voir et l'accompagner. Des volontaires amenèrent tout un arsenal de vieilles hallebardes, de massues, de sabres rouillés. Un ancien soldat brandissait une bannière de guerre. Et les paysans donc, avec leurs outils effrayants. « Allez-vous battre les Turcs ? » demanda François souriant. « Où gîte ce loup ? » « Là-bas, dans le bois, d'où montent ces rochers. » « Restez ici, vous autres, sinon, de peur, le loup prendra la fuite. » Et il se dirigea vers le bois. Les autres, pressés par la curiosité, le suivirent. Le bois traversé, ils arrivèrent dans une clairière couverte de neige. Là, le loup se tenait, une grande bête à l'air mauvais. À peine les eut-il aperçus qu'il vint droit sur eux. Et les paysans de dévaler la pente au galop en hoqueta un « ave ». François demeura et regarda venir l'animal. Il traça en l'air dans sa direction un grand signe de croix. Le loup s'arrêta net comme sculpté. François s'approcha et alors la foule vit entre les arbres comme le monstre courbait la tête et mettait sa patte droite dans la main de François. François lui parlait. Le menaçait du doigt et le loup se couchait à ses pieds nus, les léchait. François le caressait et lui ordonnait de le suivre, et le loup le suivait comme un chien en levant vers lui un regard docile. La foule courut après eux, étonnée et timide. Le saint entra dans la petite ville où, devant les habitants émerveillés, il fit un beau sermon avec à côté de lui le loup assis sur son derrière. Et au loup, il dit que les hommes lui donneraient à manger désormais, mais qu'il devait respecter tout le monde et ne plus nuire aux êtres vivants. Le loup fit signe que oui. Ensuite, François parla de Jésus, du grand amour de Dieu, et qu'il nous faut voir un frère en toute créature, même en un loup, car nous avons tous un même père. Le loup retourna à son bois, et François reprit sa route, seul, inquiet et sombre. À Bologne pour voir frère Antoine, dont on dit merveille, qu'il convertit les hérétiques, des rues entières à la fois, qu'il a prêché devant les poissons et surtout qu'il est riche en belles vertus. Frère Antoine est parti au loin en tournée missionnaire. On demande à François de prêcher et sur la place publique, devant les 10 000 étudiants, tous les professeurs et l'évêque, il fait un sermon si puissant qu'on le porte en triomphe par la ville. Pourtant, mon Dieu, c'était de pauvres paroles toutes simples, des paroles de pauvres hommes, mais ils s'y mêlent et s'y font je ne sais quoi qu'on ne trouve pas dans les livres, la lumière du cœur. Mais il s'éteignit vite, et pour cause. Les frères mineurs habitaient de nouveau la belle maison dont la guerre les avait expulsés. Le cardinal disait en public, « Cette maison appartient à l'Église, elle n'est pas la propriété des frères mineurs, ils n'en ont que l'usage. » Donc c'est conforme à la règle. Une chausse trappe, dit François. Il n'avait pas le cœur à discuter avec Monseigneur, mais il se garda bien de mettre le pied dans ce couvent. Frère Pierre Stach désirait lui parler. François résista. Je ne veux pas le voir, il a mis la pauvreté à la porte. Je l'ai maudit et je ne lèverai pas cet anathème, jamais. Laissez-moi me reposer. Ils le laissèrent. Il habitait au couvent des Dominicains avec frère Léon. Le cardinal vint l'y surprendre un jour et s'ingénia à lui exposer l'urgente nécessité pour les frères d'avoir une école de théologie comme les frères prêcheurs. « Non, dit François, c'est la voie ouverte à l'orgueil. Les frères pauvres risquent d'y oublier la sainte pauvreté et simplicité. C'est pour combattre l'hérésie, insista Monseigneur en le scrutant du regard. » François ne put supporter ce regard d'acier et dit « Ils se vantent de convertir les hommes par leurs sermons. Ce sont mes frères pauvres qui l'ont fait par leurs prières. » « Prier et prêcher, répartit Monseigneur. Non seulement prêcher la pénitence, mais réfuter les hérétiques. Or, ces gens-là connaissent les textes, posent des questions insidieuses. Il y a même des frères qui, dans leur ignorance, avance des thèses erronées. Hélas, soupira François, proclamer une vérité avec une foi profonde est plus fort que réfuter des sophismes. Le bon prédicateur doit d'abord, par sa prière secrète, absorber ce qu'ensuite il communiquera par son discours sacré. Être tout brûlant au-dedans plutôt que froidement éloquent au-dehors. Cela ne s'apprend point dans les livres, uniquement en présence de Dieu. Et frère Antoine ? Ah, ce bon frère, il a, lui, l'humilité, la piété, la simplicité du vrai frère mineur, mais en outre l'érudition et une brillante intelligence. Il est si versé dans la doctrine que par sa science il réfute tous les hérétiques, qui d'ailleurs le redoutent. Il est le marteau des hérétiques. Et vous vous opposeriez à ce qu'il formât de jeunes frères selon son âme et sa vie. Pareille école est une grâce, dit François. Une école où chaque professeur serait un Antoine et formerait des Antoines. Ah, certes, mais hélas, soupira-t-il. Et dans ce soupir, il y avait beaucoup de choses. Consentez, dit le cardinal, à ce que nous fondions avec lui une classe de théologie. Oui, dit François avec ardeur, mais lui seul. Et nul autre, nul autre. Frère Léon, prends ta plume et écris. frère Léon ouvrit un parchemin sur ses genoux et écrivit sous la dictée du père. « Frère Antoine, il me plaît que tu enseignes la sainte théologie aux frères, aussi longtemps que dans cette étude, ils exerceront l'esprit de sainteté ainsi que le veut la règle. » « Remettez-lui cette lettre quand il reviendra, » dit-il au cardinal. Celui-ci, de joie, ferma les yeux. « Et ne consentiriez-vous pas, suggéra-t-il aussitôt, à rédiger la règle dans une forme légale, de manière que notre Saint-Père le Pape la puisse approuver ? C'est le seul moyen de faire cesser le désordre, et il doit cesser, sinon le Pape abolira toute la confrérie. « Je n'ose pas, monseigneur. Cette règle, je la tiens de notre Seigneur. » Y changer quelque chose, ce serait blesser notre Seigneur. Je vous en supplie, n'y changeons rien. Que notre Saint-Père le Pape l'approuve telle qu'elle est. Impossible, avant que les ministres soient d'accord sur ce point. Et vous le voyez bien, ils ne le seront jamais. Prions pour qu'il le soit un jour, monseigneur. Il n'y a rien à faire que de prier. Et soudain énergique, j'aime mieux voir périr la communauté que de permettre qu'on en chasse d'âme pauvreté. La douleur de nouveau l'abattit, mais tout en geignant, il sourit à l'évêque. Dieu est bon. Au revoir, chers amis, mais nous retrouverons Saint François très bientôt.